Il s'agit d'une Bible liturgique et nous la retraduisons, j'allais dire, tout simplement parce que Rome nous l'a demandé, comme elle l'a demandé à toutes les conférences épiscopales de revoir la traduction de la Bible. Et en même temps, le fait nouveau, c'est qu'on nous a demandé aussi de faire une traduction, pas simplement des passages qui sont lus dans la liturgie habituellement, mais de faire une traduction intégrale de la Bible, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, une traduction intégrale liturgique de la Bible. Alors, pourquoi une traduction liturgique? Quelle est sa particularité? Sa particularité, c'est d'être faite pour être proclamée, d'être faite pour être entendue en assemblée. Et vous comprenez facilement qu'une Bible que l'on lit sur sa table de travail ou dans son lieu de prière, donc avec une lecture uniquement des yeux, la traduction n'est pas forcément la même lorsqu'elle est proclamée ou entendue. On est obligé de faire attention au risque de mauvaise interprétation ou bien aux mauvaises sonorités. Il faut vraiment qu'elle soit proclamée, entendue, comprise et qu'elle soit élégante le plus possible au niveau de la langue.
Justement, parmi ces changements, alors c'est peut-être pas un changement radical, mais c'est un changement qui a quand même fait beaucoup parler de lui, c'est celui concernant une des phrases du Notre Père, qui est la prière la plus connue de tous les fidèles. Comment ça se fait qu'on s'est rendu compte que finalement on ne pouvait plus dire « ne nous soumets pas à la tentation » ?
Au niveau de la traduction, la question ne s'est pas posée simplement ces dernières années. Nous avons ce verbe « induire », »,« introduire », est un verbe qui n'est pas tellement utilisé dans la Bible. On le trouve, si je ne me trompe, deux ou trois fois, pas plus. Ça n'est pas très simple. On essaye de le comprendre. Bon, on a le texte grec, mais on essaye de remonter à l'original araméen et ça n'est pas très très simple. Nous avons été amenés à faire un choix. Et quand nous regardons les traductions dans les différentes langues, ou même les traductions anciennes et celles que nous avons aujourd'hui, il y a toujours eu d'un côté une vision de Dieu qui permet que nous soyons en quelque sorte tentés, que nous soyons mis à l'épreuve, et c'est vraiment ce que nous vivons dans le combat spirituel, et ce que l'on peut voir dans le Nouveau Testament avec ce qu'a vécu lui-même le Christ. Le Christ est allé au désert et y a été tenté, nous le savons. Ça nous est rapporté par les évangiles, donc la tentation fait partie de la condition humaine. Puis nous voyons aussi le Christ au jardin des Oliviers qui angoisse en quelque sorte et qui dit « Père, éloigne de moi ce calice ». Enfin bon, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Donc la tentation fait partie de l'expérience humaine. Maintenant, en même temps, Dieu n'est pas celui qui nous met des embûches, qui veut nous faire tomber ou qui nous tend des pièges. Or, dans cette traduction, il y a des nuances. Comment arriver à faire comprendre que la tentation, encore une fois, fait partie de l'expérience humaine, mais en même temps qu'elle n'est pas une volonté de Dieu qui vient nous mettre en difficulté. Donc là, ne nous laisse pas entrer en tentation, bon, ne nous laisse pas succomber. On est dans la nuance. C'est quand même important. C'est un choix qui a été fait.